ceci est la fenêtre du pornographe. Elle a été diffusée avant les nouvelles, avant l'émission.
Hey, Piquette, as-tu vu ça? Il y a un couple qui a déposé une poursuite contre Grabowski parce qu'il les a battus dans un bar. Hein?
Pour une fois qu'il se bat, il aurait pu faire ça sur la glace. Ça coûterait moins cher d'avocat.
Pas fou! Hein? Le pornographe après les nouvelles.
Émission du 24 septembre 2010. Mes amis, où est Cédric Desjardins? Vraiment, je vous le demande.
OK, OK, c'est beau, Piquette, là, mais attache-le comme
ouais,
du monde.
C'est ça, le type 100 piastres, il faut qu'il soit attaché solide au bout de la ligne, là, OK? Là, tu pars avec la canne, puis là, tu sais, comme, casse.
Okay, okay,
c'est ça, OK, oups, c'est beau, c'est beau.
Ça marche! C'est beau, mais lâche pas, Piquette, on le voit, il s'en vient, là.
Ben oui, c'est rageant. Vite pas, le soir, l'appui.
Je peux pas, il se débrouille.
Ben, c'est normal, OK, Piquette, calme-toi, calme-toi, c'est une grosse prise, laisse-la aller, laisse-la se fatiguer, là. Laisse du lousse, il s'en vient de moi, meilleur, c'est beau, c'est beau.
All right!
Non, c'est juste Marie-Claude Savard.
Mets-moi ça à l'eau, là. La prochaine fois, on prend pas de chance, on chasse le régent avec un piège à ours. Un lingot d'or dedans.
Le sport-mographe, c'est la commotion dans la région. Le sport-mographe, la population dans les salons chante à l'unisson. Le sport-mographe est là, le sport-mographe est là, le sport-mographe est là, le sport-mographe est là.
Qui c'est qui est à l'émission cette semaine?
Régent Tremblay!
Oh, le radiothon a fonctionné, mesdames et messieurs! Ça va se distribuer en dessous de la table, ces gros chèques-là. Les feuilles tombent, la mercure baisse et le QI moyen sur les ondes sportives chute drastiquement. Tant de signes qui annoncent le retour en force du gros hockey et de votre émission fétiche. J'ai nommé le Sportnographe, mesdames et messieurs. Réal Manager au micro en compagnie d'Yvan Piquette et de Paul Meilleur au coin.
Bonsoir!
Messieurs, la galère qui recommençait cette semaine. Ah, et je ne parle pas ici de la télésérie de Radio-Canada. Merci, c'est une bonne blague. Mais du camp d'entraînement du Canadien à Brossard. et c'est d'autant plus intéressant car il y a du nouveau dans l'équipe cette année.
Christine se force?
Non.
Pouliot se touche?
Spatchek engraissé.
En fait, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je faisais plutôt allusion à ce nouveau règlement de la Ligue nationale concernant l'attribution des points en fusillade.
Fascinant.
En fait, c'est pas super clair. Et tant qu'à vous raconter n'importe quoi, je vais laisser ça entre les mains d'un expert.
Okay. Ah. Parce que la Ligue nationale a décidé qu'on va éliminer ça au point de vue si il y a égalité et si ça se fait en fusillade, c'est l'équipe n'aura pas ce point-là pour les mettre en série éliminatoire. Alors, moi, je suppose que ce changement-là que la Ligue nationale a fait.
Vous voyez?
Mais
nous autres aussi, on est pour.
Mais ça, c'est comme les questions au référendum. Ouais. Je comprends jamais rien, mais je suis tout le temps pour.
Le sportographe est là! Le sportographe est là!
Canadien à stress, viens relaxer à la Cage au Spa. Oui, c'est Normand Leblond à la Cage au Spa à Laval. Le tout premier concept bar sportif détente. Nachos à la petite crème. Épilation à sauce brune. Aile de poulet dans le sauna. La Cage au Spa, c'est la place pour regarder du gros hockey en petite serviette. Viens te faire tripoter par notre masseur Tony Twist, grand spécialiste des massages à coups de Sherwood. À la Cage au Spa, on sert des poches de tisane direct dans le pichet de bière. Après 4-5 gorgées, même les gars d'RDS te tapent plus ses nerfs.
La rondelle doit quitter le territoire, c'est pas le cas.
Oui, c'est Normand Leblond qui vous dit... Viens boire une petite frette assis dans la boîte.
Chronique sport et société avec Fred Savard, alias Maître Verge.
Tanique Coyminisson est allongé le mur du côté et te voici debout sur les pissenlits.
C'était Linda Lemay avec Debout sur les pissenlits. Un extrait de son dernier album. Oui. C'est très, très bon, n'est-ce pas, Fred Savard, alias Maître Verge?
C'est très, très bon. Je vais prendre un plat pour vomir. Bonsoir, messieurs.
Oui.
J'espère que vous êtes prêts parce que j'ai des révélations troublantes à vous livrer sur un mythe. Un mythe qui circule depuis quelques temps dans les cercles sportifs québécois. Un mythe qui émane du sulfureux Régent Tremblay, votre ami.
Oui.
En fait, c'est le genre de mythe qui aurait dû se retrouver dans une de ces séries lourdes. Mm-hmm. Lourdes autant au niveau du budget que de l'ennui qu'elle nous inspire. Je veux évidemment parler du mythe que le retour des nouveaux Nordiques forcerait Canadiens à repêcher plus de Québécois parce que dans le temps des anciens Nordiques, 8 Québécois sur 6 jouaient dans une des deux équipes et c'était vraiment fantastique.
Ça, c'est vrai.
Cette idée a fait son chemin dans la psyché collective à un tel point que Pierre Curzi et Pauline Marois se sont exprimés sur le sujet en parlant d'un complot fédéraliste. Mm-hmm. Visant le génocide du patineur de chez nous qu'on pousse à l'exode pour aller gagner sa croûte en or massif dans des villes comme Tampa Bay, Philadelphie ou pire, New York.
Ah.
Mais s'est-on vraiment posé la question à savoir si Régent disait vrai? Évidemment non, puisqu'en matière de hockey, le Québécois moyen fait preuve d'une navrante bêtise et oublie de se servir de la chose molle qui se trouve derrière ses yeux, juste en dessous de ses cheveux. Mais aujourd'hui, grâce au travail d'une équipe de mathématiciens des plus chevronnés, je vous présente les conclusions d'une étude longitudinale qui permet, hors de tout doute, de prouver qu'il n'y a eu aucune variation de de pourcentage des Québécois repêchés par Canadiens pendant et après la présence des Nordiques dans la LNH.
Incroyable.
Entre 1979, l'arrivée des Nordiques, et 1994, l'année de leur départ, le Canadien a consacré 22 % de ses choix au repêchage à des Québécois.
22.
La même proportion qu'entre 1995 et 2010, alors que les Nordiques n'étaient plus là.
Arrêtez donc.
Étrangement, c'est justement quand les Nordiques sont arrivés que le Canadien a presque refusé de repêcher des Québécois. Mmh. En 79, on s'est contenté de Gaston Gingras en première ronde et de Guy Carbonneau en quatrième ronde. En 80, le Canadien a jeté son dévolu sur un seul Québécois en septième ronde avec l'inoubliable Rémi Gagné.
Gagné.
Alors qu'en 81, sur 13 choix, un seul joueur est réclamé. La vedette du micro-sillon, Gilbert Delorme. En 82, deux Québécois repêchés, aucun qui passe proche de jouer dans la grosse ligue. En 86, Canadien repêche un gros bonhomme qui aime ce qu'il voit, Benoît Brunet.
Yeah!
En 89, le Canadien donne un grand coup avec 7 Québécois sur 12, l'année de Brisebois, Sivigny, Racicot et Lebeau. C'est l'exception. Et malgré l'idée entretenue que les Nordiques ont été agressifs pour se garnir de Québécois, on se rend compte que ces Nordiques-là, en 79 et 94, n'ont consacré que 20% de leur choix au repêchage à des Québécois.
Moins de Canadiens.
Et c'est parce qu'il y a eu des grosses années que ça vient gonfler les chiffres. On pense à 80, où on a repêché 4 Québécois sur 8, dont Normand Rochefort et Pierre Lacroix. Oh. Pas celui que vous pensez, mais l'autre, là. Celui avec pas de bédaine.
Ah, oui, c'est
on se doit de souligner également 86, qui vient fausser les données, alors qu'ils ont repêché 5 Québécois sur 14. Mais aucun joueur ne fera la Ligue nationale. Ah. Fait intéressant, le septième choix de cette année-là était Jean-François Nau, le frère de Martine Sinclair. Il y avait de l'amour dans l'air en 86.
Oui, ben, c'est bon, ça
malgré la rivalité, les Nordiques n'ont pas hésité à ne pas repêcher de Québécois en 87 et en 90, en plus de n'en repêcher qu'un seul en 93 et 94. Alors, on va repasser pour le patriotisme envers l'accueilleur de chez nous.
Okay? Gang de Québec.
Et n'oublions pas, en 92, malgré la présence des Nordiques, le Canadien n'a pas hésité à repêcher en 12e ronde un obscur Japonais du nom de Hiroyuki Mihura, au mépris le plus complet des Hiroyuki Wallet de chez nous. C'est vrai que depuis 5 ans, le Canadien n'a pas repêché beaucoup de Québécois.
Mais
on ne peut pas parler d'une tendance lourde. On oublie qu'entre 2000 et 2005, ils en ont repêché 12. Et si on regarde les 5 années qui suivent le départ des Nordiques, ils en ont repêché 14. Alors, on ne peut pas dire que se sont assis sur leur steak en profitant d'un public captif. Et vous pensez que ce serait différent avec Pierre-Carl Péladeau si les Nordiques reviennent grâce à l'injection de fonds provenant des contribuables, ces stupides payeurs de taxes qu'on endort à coups de matchs de hockey à la télé?
D'après moi, oui.
Et c'est cette société qu'on veut offrir à nos enfants?
Ah oui.
Une société où ces équipes repêchent à peine 20% de leurs fils? Moi, j'ai pas voté pour ça, moi.
Ben,
mais en fait, j'ai pas voté pour en tout.
Wow! Okay, Fred Savard, journaliste sportif, merci.
Au revoir.
Cette semaine, à Journalistographie, la carrière de Régent Tremblay. Né avec une plume dans les mains, Régent est un pur sang. Dedans la grosse presse, il conquiert le monde grâce à des articles sur les Sacs de Chicoutimi et sur ses games de tennis avec ses amis. De Monaco à Robertval, Régent est dominant. Jusqu'au jour où Régent commet l'irréparable. Il se met à dos Patrick Roy en écrivant Le Masque, une infopub de 4 heures sur la vie sexuelle de Mathieu Schneider. Dès lors, sa carrière pique du nez à un point tel que Régent se fait sacrer là pour Virginie. Pour combattre son mal de vivre, Régent se réfugie dans le vice.
Mon capitaine dans l'ancien compte, il passe la série à faire l'amour avec deux policières.
Et Régent revient à la vie. Il slaque sur les tripes à trois, écrit 52 suites de l'ancien compte et donne un cancer grave à Marina.
J'ai le cancer du téton aussi.
Aujourd'hui, Régent est l'invité du Spornographe. Plus que jamais, Régent a compris que la meilleure façon de guérir une dépendance au sexe, c'est de se faire interviewer par des petits gars qui en ont jamais.
Et un des meilleurs non-capitaines que j'ai eu, il y a eu le C pour une tasse de café, c'était Mike King.
Et oui, et il est l'un de nos meilleurs non-chroniqueurs, c'est Yvan Piquette. La parole est à vous.
Dans la vie, il y a de ces choses hautement importantes comme la nomination des juges et le choix des candidats d'occupation double. Mais rien ne suscite autant de questions que la désignation du prochain capitaine de Canadien.
On a été, durant toute la durée du capitanariat de Saiko Koivu, on lui a reproché de ne pas parler français. Jonta parle du français.
Pas grave.
Capitanariat de Jonta se fasse pas en français, c'est pas grave. Capitanariat, c'est même pas un mot français.
Ben oui, mais là, ça va être Jonta le capitaine, ça veut dire?
Exact.
Smith, c'est de la graine de capitaine. De toute façon, c'est John.
De la graine,
c'est
de John Tuff.
C'est John Tuff, fait qu'on pense à d'autres choses.
Ben oui. Bon, ouais, on va faire comme si on n'avait pas entendu Michel Villeneuve parler de graine de batteur de femme.
Puis on va conclure, comme Ron, que le choix du capitaine, ben c'est réglé. On passe aux publicités.
Wow, minute, là. Faut pas prendre Ron au pied de la lettre, non. Parce qu'après avoir estimé que ça servait à rien d'en parler, il en a parlé toute la semaine.
Hein? Georges, il a été nommé en call-in à ton, hey, à ton pool, mon Ron.
Merci d'avoir écouté. Le résultat était le suivant. Gianta, 17 votes. Georges, 14.
Oui, c'est ça que je t'avais dit.
Ben ouais, 17 nobody veulent que Gianta soit capitaine et 14 autres nobody préféraient Georges.
Ben, vous pouvez ajouter mon nom au Georges.
Réal, si vous m'aviez laissé finir ma phrase, je me serais moqué de la méthodologie et de la valeur scientifique du sondage de Ron. J'aurais aussi probablement évoqué le ridicule de demander à des nobody d'évaluer le leadership d'individus qu'ils n'ont jamais rencontré. Hein? Mais je le ferai pas juste par respect pour vous.
C'est très gentil.
Non, mais hey, Jacques Martin côtoie les joueurs au quotidien, puis même lui, il n'était pas capable de se brancher. Ah ouais? Michel Langevin le disait il y a un an de ça.
Si Jacques Martin dit et juge nécessaire que lui, là, il va être capable peut-être même pas d'avoir un capitaine au premier match de la saison après avoir passé du temps personne à personne. Attends un peu, Jean-Charles. Attends un peu. S'il est même pas capable de nous assurer qu'il va avoir connu assez ses joueurs, comment nous autres on fait pour vraiment le connaître, le joueur?
Bon, good, là, on passe aux publicités.
Wow, minute, là. Faut pas prendre le Michel au pied de la lettre. Parce qu'après avoir dit que ça servait à rien d'en parler... Il en a parlé pendant un an.
Hey, ma femme a fait la même chose.
Mais là, on est-tu sûr que ça va être Gianta, le capitaine?
Oui, monsieur, ça doit être vrai parce que le capitanariat canadien, c'est pas comme la mort d'un homme. On niaise pas avec ça.
Ça, c'est vrai.
Ça va être Gianta. François Gagnon nous l'a dit. Sauf que Michel Langevin, lui, pensait que le Canadien allait piler sur son orgueil puis l'annoncer au grand jour lors du tournoi de golf.
Fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est en train de changer le plan. On n'avait peut-être pas préparé ça de même.
Ou que le plan était prévu comme ça,
Michel. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est
claire.
On va l'annoncer aujourd'hui.
Ouais. Bon. Quand Michel il a vu que le Canadien ne changeait pas d'idée, lui, il a changé d'idée.
C'est pas un journaliste qui va changer l'agenda du Canadien de Montréal.
Ah, tu m'as écouté après-midi?
Non, je t'ai pas écouté après-midi.
C'est ça que j'ai dit à la radio.
Je t'ai pas entendu, t'étais-tu à la radio aujourd'hui?
T'as la journée pour préparer ta manchette, puis tu répètes ce que Mario dit.
Il est tellement influençable, notre Michel. Il faudrait pas qu'il écoute notre émission.
Mais là, il l'a trouvé où son scoop, François Gagnon? Il me semble c'est pas un
sniffeux de pète.
C'est que les journalistes qui sont affectés à la couverture du Canadien ne sont pas des sniffeux de pète, mesdames et messieurs.
Ouais, ben, je suis pas sûr que c'est ce que je cherchais, là, mais ça répond pas à ma question. Il l'a trouvé où, son scoop?
Il l'a peut-être pas trouvé. On lui a peut-être donné avec le vouloir.
Ça, est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était pas voulu? Parce que souviens-toi, des fois, des scoops, là, ils sont donnés... avec le vouloir, là, tu sais.
Ça, là, un scoop avec le vouloir, là, c'est comme si un coach était ami avec un journaliste puis qu'il faisait exprès de lui donner l'identité du nouveau capitaine en deux hot dogs. Mm. C'est comme éthiquement impossible.
François!
Soyons positifs. Mais c'est l'ami, je sais que c'est l'ami de François.
Non, mais je le sais,
François, il a un scoop hier. On se demande si c'est Jacques qui a donné le scoop.
Jacques Martin aurait donné le scoop à François Gagnon. Non, ça doit être une erreur. Là. Ouais, c'est comme si, mettons, Dominique Saillant, le gars des communications de Canadiens, soupait avec les journalistes et leur donnait des scoops en dessous de la table.
Ben,
conseil de presse retournerait dans sa tombe.
Ben,
c'est une famille. Puis les compétiteurs t'as là, François Gagnon t'as là, Godin t'as là, Mathias Brunet t'as là, Monsieur Saillant, son
Dominique Saillant.
Dominique Saillant t'as là. C'était une belle fête.
Quoi? Ouais, le gars des coms mange des tourne-dos de poulet au club de golf en famille avec les journalistes sportifs. Je pense que ça va nous prendre une commission d'enquête.
Commissaire Piquette, merci.
De rien.
C'est pas des gars qui ont été au collège, là, des journalistes, ces gars-là. Là. Mais mettez-vous ça dans la tête.
Bonjour, ici Real Manager. En tant que journaliste sportif de plus en plus populaire, je dois m'attendre à recevoir plusieurs offres de collaboration et à les accepter. Il y a cependant un prix à payer pour être riche comme Crésus. Il faut travailler fort pour pouvoir trouver de nouvelles idées, à moins d'avoir le rare talent de faire du remplissage sans effort. Et pour en parler, je vais recevoir une personne que je décrirais personnellement comme extraordinaire, Real Manager. Bonsoir, Real.
Bonsoir.
Premièrement, je voulais te dire, je suis un fan de ton travail. C'est très, très bon ce que tu fais.
Merci, ça me fait chaud au cœur.
Ben, justement, je peux de plus en plus profiter de ton génie parce que tu publies un peu partout. Hein?
Ouais.
Ton site web à tous les jours, le journal Métro les vendredis, ta présence à Infoman, tes capsules lors de la Coupe du Monde, ton prochain contrat.
Hey, slack, il y a de l'information qui doit rester entre toi puis moi là-dedans.
Oups, excuse-moi, pas de trouble. Réal, j'imagine ce que tu veux me demander, là, c'est comment faire pour créer autant de contenu, c'est ça?
Tabarouette, tu me connais bien. Toi?
Ah, qu'est-ce que tu veux? Je t'explique ça dans quelques instants à
l'Académie de journalisme sportif Burger Sport.
Ne manquez pas la suite de l'Académie de journalisme sportif Burger Sport.
Burger Sport, la boulette la plus sportive en ville.
Ce sport, très semblable au sport national, le hockey, est différent puisqu'il ne se joue pas sur la glace, mais bien sur une surface extérieure.
Oh, Sheldon Dubé de retour cette semaine pour nous parler d'un autre sport qu'il pratique. Hey, Sheldon, coudonc, c'est juste ce que vous savez faire, parler des choses que vous pratiquez vous-même.
Oui, je vais vous dire, les gars, mais c'est bien moins de recherche en partant, c'est un peu lâche. En fait, en faisant ça, mes dépenses sportives deviennent déductibles d'impôts.
Ah, ben oui.
Et cette semaine, je ne fais pas exception, je vous parle de décaqué, messieurs.
De quoi?
Oh là, les gars, va falloir que vous sortiez quand même plus que ça. Là. Du décaqué, c'est du 3 contre 3, plus les gardiens, ça se joue à pied avec une balle orange, une surface de 50%. C'est simple, le choix du président du hockey. Ça coûte moins cher, ça goûte pas pareil, ça devient vraiment populaire. Et en ce moment, au Québec, on vit au rythme du deck, c'est les séries.
Oh, mais là, Sheldon, j'espère que vous pensez pas être en train de nous dire que vous pratiquez du vrai hockey.
Non, on est au courant, on sait qu'on pratique pas l'original.
Ben
mais comme Paul le dit si souvent...
Hey, chérie, va me chercher le fusil!
Non, Paul, ce que vous dites au sujet de coucher avec sa cousine...
Ah, c'est bien le fun, mais c'est pas pareil!
C'est comme pratiquer l'arena football ou la balle molle. Ouais. En fait, c'est vraiment pour tout le monde. Mm-hmm. Écoutons André Chaput, le président de la Ligue de deck hockey de Trois-Rivières, nous le confirmer.
Eh bien, monsieur tout le monde, là, qui a peut-être un peu de surplus de poids, qui est peut-être un peu lent, mais qui voudrait avoir du plaisir et s'amuser en groupe, tout en ayant une compétition. Alors, on a des calibres pour ces gens-là aussi. Moi, je crois que si ton corps peut se mouvoir, on a une place pour toi.
Dans le fond, là, le deck, ça fait partie de ces sports qu'on appelle les sports incomplets. T'sais, c'est un sport auquel il manque une couple d'éléments du sport original. Okay. Prends une game de hockey, t'enlèves deux joueurs dans chaque équipe, enlèves la patinoire, enlèves 83% du talent, t'obtiens...
Non,
t'obtiens le deck hockey, les gars. En plus, c'est un sport de pardon. Il y a la police qui pardonne, il y a maintenant le sport qui pardonne. Écoutons notre presse à nouveau.
L'équipement fait avec les palettes de plastique. Même si on a un joueur extraordinaire qui a des poignets d'acier, eh bien le plastique va plier et la balle va être un peu moins forte. Alors l'écart entre la vedette de sport et Monsieur Tout-le-Monde est moins grand qu'au hockey en patin.
Donc, ce que ça veut dire, les meilleurs deviennent moins bons et les moins bons ont moins d'habileté à maîtriser pour pouvoir avoir l'air meilleur.
Il y a bien juste vous pour nous éclairer de même.
Mais puis c'est vraiment pas tout, là. Même au niveau physique, les gars, ça pardonne. On a des athlètes de près de 300 livres qui évoluent au deck.
300 livres? Ouais, c'est ce que vous faites avec ce gars-là, vous l'encastrez dans le but avec deux pattes?
Non. C'est que ça devient comme un mur avant le gardien de but. C'est comme son garde du corps.
Là, ce que vous nous dites, c'est que vous snappez des balles oranges sur les obèses.
Exactement comme ça, mais disons que la technique d'un costaud se résume pas mal à bloquer nos tirs. Okay. Puis bon, c'est pas si pire, paraît que ça raffermit les chairs. Vous comprenez, les gars, je le sais, là, le deck hockey, ça pardonne. C'est ça qu'il faut retenir, c'est un sport miséricordieux. C'est pas juste bon pour le corps, c'est aussi bon pour l'âme. Parce que c'est quoi la base de la religion catholique?
Les petits gars.
Non, c'est le pardon, les gars. Vous êtes bien tannants aujourd'hui, là.
Ben, c'est parce que le hockey t'avait de recommencer, puis on s'est assez ennuyé des points de presse de Jacques Martin. Mais là, Sheldon, je regarde vos stats sur les internets, là, 3 buts, 12 passes, champion punition avec 38 minutes, vous jouez dans le calibre le plus faible et vous êtes à votre deuxième équipe en 2 ans.
C'est que je suis un joueur de caractère, les gars.
Pierre Levert, en plus de se faire shooter, il pogne un autre pénal.
Chapeau.
Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, les gars, construire sur du positif? Arrêtons de parler de moi. Mm-hmm. Allons plutôt voir notre champion marqueur de la Ligue de deck hockey de Trois-Rivières. Allons découvrir ses secrets. Sydney Aubry nous dit comment trôner au sommet des pointeurs.
C'est facile, tu dis que t'as jamais joué au deck, tu t'inscris dans la plus petite classe.
C'est-tu pas beau pis simple la vie,
sait-tu pourquoi ça s'appelle le deck?
C'est très simple, les gars. Après recherche, d'après moi, c'est parce que ça se termine toujours sur le deck entre les deux surfaces avec une chaudière pleine de glace remplie de certifiés froides.
On aime ça.
Moi, les gars, je vous aime.
C'est beau. Nous aussi.
Bonsoir, les amis du sport. C'est Guy Côté, le petit repêché de la radio commerciale qui survit à la crise économique grâce aux pornographes. Merci, les gars, et bienvenue au combat des clips. La semaine passée, Michel Sexy Langevin a gagné notre combat avec 158 votes pour sa blague cochonne.
Quand tu dépasses 20 coups, là, je te dis qu'elle est fatiguée. Qu'est-ce que tu dis là?
Cette semaine, on a des poids lourds des deux côtés dans le coin gauche. Jérémy Rainville nous parle de la première fois qu'il a fait des affaires avec une fille.
Mais le fait en premier.
Ben oui, c'est toujours moi.
Moi je vois 14. 14 avec une fille plus vieille que moi en plus.
Et dans le coin droit, le légendaire Michel le Tigre Bergeron nous parle de sa bande dessinée, la même que moi, sa préférée, Snoopy.
Jamais de off the record, ça, je te
jamais de off the record. Puis je sais que dans la province de Québec, on a des Scoopy, des Snoopy. C'est qu'ils ne vivent que pour le scoop, là.
Hey Michel, j'ai un petit scoop pour toi. Si ta bande dessinée préférée, c'était Snoopy, là, pour moi, t'es encore plus saut à 14 ans. OK, sans rancune. On se donne rendez-vous au spornographe.com pour voter pour votre clip préféré. Participez en grand nombre. Tweetez ça à vos amis Facebook. Le gagnant vous sera dévoilé la semaine prochaine.
Ben quand vient le temps d'être sérieux en parlant sport, c'est vers notre ami Claude Kenville que l'on se tourne et son émission de vieux sportifs de salon, Culture physique en ondes ce soir à 22h. Claude, de que c'est?
On reçoit le nouveau chef de police de la ville de Montréal, M. Marc Parent.
Oh, que ça va être intéressant, mais c'est pas une émission de sport que vous faites, vous, là?
Wow. Je vais vous dire l'affaire, là. Gérer une bande de syndiqués comme ceux-là, c'est du sport, ça, messieurs.
Bonne, Claude, je vous remercie. Bon show, là.
Allez, gousse d'ail.
Vous écoutez le Spornographe. Retrouvons Piquette, Manger et Meilleur au coin.
Ah, les archives sont à l'histoire. Ce que Paul Meilleur au coin est à l'information sportive. Ouais. Des affaires indispensables pour la compréhension ontologique du monde postmoderne.
Hey, hein? Réal, si je vous dis, cet homme fut une grande vedette des voyageurs de Montréal en 1969 en évoluant notamment aux côtés de Jude Drouin. Il l'a également terminé au premier rang des marqueurs des Sharks de Los Angeles en 1973, tout juste devant Gary Veneruzzo et Jean-Paul Leblanc. Il travaille maintenant chez Toyota Charlebourg.
Oh, Marc Tardif!
Effectivement, Réal, il s'agit de Marc Tardif, grande vedette du hockey de chez nous qui se confiait à mon micro en 1973, ici sur les ondes de Radio-Canada. Et franchement, c'était tout un bout d'entrain, ça, Marc.
Un bout d'entrain.
On écoute.
Ici Radio-Canada.
Appelez-moi Paul. Voici Paul Meilleur au coin.
Bonsoir à vous. Heureux de vous retrouver comme à tous les soirs en direct de la Place Versailles à Montréal. Ah, quel magnifique endroit, hein? Ce soir, mon invité, malgré son nom, n'est jamais en retard sur le jeu. Mesdames, messieurs, Marc Tardif. Ah, Marc, dites-moi, êtes-vous content d'être avec nous ce soir?
Oui, je suis très content, comme tout joueur d'hockey, parce qu'il compte un but. Donc,
Marc, j'ai su qu'à 29 ans, vous venez tout juste de quitter la maison de vos parents. C'est vrai, ça?
Oui, ça fait exactement 8 mois.
Ah, donc, ça fait vraiment pas longtemps, là.
J'aime bien ma vie, la nouvelle vie.
Autre chose à dire sur la vie familiale?
Non, pas sur la question familiale.
OK, bien, on va parler de la question hockey à place. Quelle est l'équipe que vous détestez le plus jouer contre, Marc?
L'équipe que je déteste le plus jouer contre, c'est Chicago. Ah! J'ai réussi, je crois, à compter seulement qu'un but en 3 ans contre eux.
Pourquoi, pensez-vous?
Je ne sais pas. Peut-être que c'est leur style de jeu qui ne va pas à l'encontre du mien.
Mais là, attendez, là, à défaut de me tromper, Canadien, cette année, ça va bien. C'est quoi, selon vous, la principale différence avec l'an passé?
Je crois que cette année, les joueurs s'aident beaucoup. Il y a notre coach, M. Bowman, fait un excellent travail. Et depuis 3 ans que je joue avec le club de hockey canadien, je me suis rendu compte que les joueurs de hockey se tenaient... d'une manière très, très...
Ensemble.
Ah oui, c'est... Prenez un gars comme Jacques Lemaire et Jean-Aude et Guy Lafleur cette année. Je crois que c'est pour ça qu'on est en première position.
Mon équipe et moi, on se demandait cette semaine, là, comment ça se passe le renouvellement de contrat pour un joueur de hockey?
Bien, disons, lorsqu'on signe notre contrat au courant de l'été, M. Pollock fixe un nombre de buts et puis il dit qu'on est capable d'améliorer notre nouvelle saison.
Et là, cette année, M. Pollock a fixé votre nombre de buts à combien?
35 buts cette année.
Vous ne pouvez pas en faire plus, c'est quoi?
Non.
Vous me niaisez, Marc. Là. Non. Sérieux, vous ne niaisez pas?
Non, du tout.
Mais ça ne vous trouble pas un peu? Je sais pas.
Un peu, oui.
Les Canadiens ne changeront jamais. Hein? Marc, si vous me permettez, on va s'arrêter le temps d'un court message publicitaire et ensuite, on vous revient avec la question du public.
Quand on a de très bons moments, on voudrait arrêter le temps. Une photo nous l'arrête un peu.
L'appareil Polaroid des bons moments, avec un obturateur électronique, un œil électrique, un flash intégré et un objectif précis à 3 éléments, ne coûte que $34.95 et vous remet de magnifiques photos en 60 secondes seulement. Y a-t-il une autre façon de prendre des photos?
Quand on a de très bons moments, on voudrait arrêter.
arrêter le temps.
Ah, nous sommes de retour à Appelez-moi Paul. C'est maintenant temps de la question du public et on a M. Fauteux avec nous. M. Fauteux, votre question.
Les batailles, là, pourquoi, je veux dire, vous vous battez tout le temps des fois?
Vous voulez dire en tant que bataille?
C'est ce que vous voulez dire, M. Fauteux?
Oui.
Mais, M. Fauteux, est-ce que vous savez un coup de coude sur le nez et puis il y a des lames qui sortent des yeux? Je crois que c'est assez difficile de rester... là, à rien faire, donc oui. Je crois que ça vient naturel que les gants tombent à terre et puis qu'une petite bataille.
Bien, merci beaucoup, M. Fauteux, pour votre question. N'empêchant, une bonne bataille, c'est comme oublier de sortir les vidanges à la maison. Ça entraîne toujours une punition. Eh bien, voilà, c'est déjà tout pour cette édition d'Appelez-moi Paul. Bonne fin de semaine à tous. Revenez-nous lundi prochain, alors que mon invité sera la nouvelle acquisition de Canadien, Larry Plot. Au revoir!
Ah, quel homme, ce Marc Tardif. Hein?
Oui, et en passant, j'ai vérifié, là, la Corolla est en spécial chez Toyota Charlebourg, et ça jusqu'à dimanche.
À quel taux?
À 0,9% sur 4 ans réels.
Oh, ben, je vous remercie.
Ça fait plaisir.
C'est pas des gars qui ont été au collège, là, des journalistes, ces gars-là. Là. Mais mettez-vous ça dans la tête.
Réal, je viens de lire un de tes articles publiés récemment sur les internets et je suis bouche bée.
Ben
oui. Autant de mots.
T'exagères.
Non, je te dis, des fois, j'ai l'impression de lire du Foglia tellement c'est bon.
C'est
le contenu en moins. Mm-hmm. Comment tu fais?
Écoute, je pense que tu as touché l'aspect le plus important dans l'écriture de chroniques multiples, là, l'impression. Tu vois, l'important, c'est pas tant qu'il y a de quoi dedans, mais que tu aies l'impression qu'il y a de quoi dedans. Vois-tu?
OK, OK. Ouais. Ben, donc, pas tant comme Pierre Foglia, mais plus comme, Richard Labbé.
Oh, exactement. C'est d'ailleurs un de mes modèles.
L'Académie Burger Sport de retour après la pause.
Burger Sport, la boulette la plus sportive en ville.
Un ami et un nouveau pilier de l'équipe des sports de CGMS, M. Pierre Trudel.
Pierre Trudel, le Habsbin.
À compter de 15h30, j'ai numéré de retour à la maison.
C'est une paire de billets de saison pour le Manic, c'est une paire de billets de saison pour les Expos.
Non, c'est pas possible.
Ouais, c'est possible.
Vous m'avez rendu du monde heureux, vous. Hein?
À part vous trois, là.
Ouais,
joyeux, Paquin.
De quoi vous nous parlez, Pierre?
Écoute, comme il faut toujours aller à contre-courant, faire la part des autres, puis il y en a qui attendent qu'une personne disparaisse pour lui rendre hommage, parler un peu d'elle.
Ouais. Vous allez parler de nous?
Non, je vais vraiment attendre que vous soyez disparu pour parler en toute liberté. Non, j'aimerais ça, je voulais parler un petit peu de Pat Burns.
Notre ami Pat.
En tout cas, vous savez tous ce qui s'est passé, la folie des médias.
Oui.
À un moment donné, on a critiqué les médias sociaux
pour
celle-là,
fois...
mais je pense que c'était pas la faute des médias sociaux.
Une des rares fois que je suis d'accord avec Michel Langevin, moi.
Ben oui, franchement.
Non, c'est parce que Pat, quand même, il faut faire un rapport avec la radio parce que, il a été coach. Puis avec,
tout un coach,
avec succès d'ailleurs, 501 victoires, je pense, sauf erreur. Ça veut dire que c'est presque 150 matchs en haut de 500.
C'est plus que Mario fois... Tremblay, ça. Hein?
Oui, pas mal. Mais il était là plus longtemps aussi. Un autre ami de région. J'en parle à mon âge, il était en arrière. Je parle pas dans son dos, là. que... Mais Pat, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui à CKC, en deux jobs de coach. C'est un peu là qu'il a rencontré, c'est un peu beaucoup là qu'il a rencontré sa femme Lynn.
D'accord.
Lynn Gignac, qui travaillait avec nous à ce moment-là, comme un peu relationniste.
De quoi?
Avec les médias, puis tout ça.
Pour s'écasser,
oui.
Il y avait des relationnistes à l'époque?
S'écasser.
Ça avait de quoi faire des relations publiques à l'époque avec les gens qui collaboraient là, comprends-tu?
Il y avait des grosses vedettes.
Ah, okay. Il y a des gros noms, surtout dans le sport, là, le soir.
Ben oui.
C'était vous, ça, j'imagine?
Entre autres.
Dans le temps que vous étiez maigre.
Non, ben c'est ça, Hélène était là, puis Pat collaborait. Puis à un moment donné, Pat collaborait surtout à la radio, tu sais. Mais la fois qu'il est venu puis il a rencontré Hélène, il venait plus souvent au poste.
Ça dans la vie. Ouais.
Ça arrive, ça. Mm. Puis, à un moment donné, ils sont partis ensemble, puis il y a eu un souper, je ne sais pas si c'était un souper d'équipe ou un party de Noël.
Pendant qu'il était coach?
Pat était assis avec Lynn. Puis,
vous êtes ça en train de faire du potin?
Ben, c'est ce que j'allais dire.
Oui, mais c'est à partir de même, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon. Ça a parti à un moment donné, main dans la main, déambulant rue Sainte-Catherine.
Arrêtez donc, vous.
C'est un fait. Là.
Ça fait que c'est bon. En général, les gars ont eu des bonnes relations avec lui, mais il était plus intimidant que certains autres coachs du Canadien.
Il avait l'air plus fâché. Hein?
Je me souviens qu'il y avait un reporter qui s'appelait Jean-Pierre Boisvert, qui avait collaboré avec nous autres, puis qui était à TVA.
Il était à RDS aussi pendant
la suite, oui. Puis il avait posé une question, je ne sais pas laquelle, à Pat. gratte, là, regarde, n'as-tu d'autres niaiseuses de même? ça gêne un gars dans un point de presse. Surtout que Jean-Pierre t'intimide un peu, tu sais, fait que ça l'a gelé là. Moi, la fois que, probablement que si je l'avais eu d'en face, il me sautait dessus, c'était après une élimination du Canadien. Et puis, Pierre Ladouceur, dans la presse, avait posé une série de 10 questions dans sa chronique. Dans pas de réponse.
Dans le temps que c'était intéressant, le journaliste.
Et il était assez, oui, il était assez précis, les questions. Ça fait que moi, je me suis dit, hey, les questions sont bonnes. Que répondrait Pat? Là, Léo au téléphone, et j'ai posé les 10 questions.
En fait, du journaliste, comme
il répondait, mais tu sentais que là, il voulait me, tu sais, il voulait me frapper. Et aussitôt l'entrevue finie, qu'on est passé à la pause, juste avant d'aller à la pause, Pat, il dit, en autre, il dit, Mario, il dit oui. Peux-tu te parler après?
Oh. Ah ouais, hein?
Devine qui c'est qui ne mange rien. Mais c'était un beau bot, c'est un bonhomme.
Est-ce que vous étiez un journaliste pissou?
Qui, moi?
Ouais, vous passiez les troubles. Non. Vous êtes toujours battu. Enfin, on ne parlera pas de Michel Villeneuve ici. Cela dit, pour les internautes...
On parle de journalistes, là, ouais.
Les internautes qui veulent avoir des petits bonbons à chaque semaine de Pierre Trudel, je vous invite à aller sur le site parce qu'il y a une vidéo de vous dans le temps du chevalier des Chevaliers hockey.
Vous étiez
un athlète.
J'ai joué à cross, j'ai joué au hockey, puis j'ai des photos même de joueurs de hockey avec les pierres. J'ai coaché Ronald Coré.
Vous aviez l'air d'un vrai athlète, en tout cas.
Je faisais à peu près 140 livres à ce moment-là.
De muscles. Merci beaucoup, Pierre.
Dieu.
Au revoir.
Hey les gars!
Quoi?
Il est où Georges?
Où dans le monde se cache notre ami Georges Larac?
Eh bien, cette semaine, il devait avoir du slack dans le manche du calendrier du Parti vert parce que Georges est allé pas comprendre les blagues poches de Locke Merville à l'émission Le Téléphone à Canal Vie animée par Joël Legendre. Hey, c'est-tu moi ou ça fait un paquet de noms bizarres d'une phrase, ça?
Mais en même temps, comme dit sa mère, l'agneau, un agneau, c'est végétarien.
À cause que l'agneau, c'est végétarien, c'est ta justification de pouvoir manger de l'agneau, c'est ça?
Non, pas parce que c'est une blague.
Ouais,
c'est une blague qu'elle me fait, elle me dit.
L'agneau, c'est végétarien, c'est pas grave.
Mais pourquoi Georges vient pas à notre émission? Il se ridiculise bien plus là qu'il ferait avec nous.
Dans le monde se cache notre ami Georges Larac.
Un ami propre.
J'aime ça quand je suis bien servi par ce flair légendaire. Je m'en caresse.
Je te laisse te toucher tout seul. Okay? Je veux pas te voir te toucher. C'est laid.
Pardon, Ribeiro, mais le sportif de salon moyen ne pratique seulement qu'un seul sport, sport qui se déroule dans la chambre à coucher. Et pour nous parler de cette activité de dessous de drap, accueillons Michel Doré, sociologue de la sexualité à l'Université Laval. Monsieur Doré, bonsoir.
Bonsoir. Vous savez que les ébats sexuels, hein, c'est sans doute l'activité physique la plus pratiquée de par le vaste monde. Alors, c'est bien normal que certaines personnes cherchant du travail puis voulant bon droit diminuer les risques encourus par la population se soient demandées est-ce que ce serait pas une activité parfois risquée, voire dangereuse? Alors, une récente étude britannique, hein, c'est très, très sérieux, là, fournit des éléments de réponse quand même intéressants. Alors, selon ce sondage, pas moins du tiers des gens se blessent en faisant l'amour. Ce qui montre que le sexe est sinon un sport périlleux, du moins à ne pas prendre à la légère. Vous vous demandez sûrement quelles sont les blessures les plus courantes. Alors, le tour de rein, l'élongation musculaire, les éraflures, le torticolis, les contusions, les luxations de genoux, de coudes, des épaules, de poignets. Dans ce dernier cas, peut-être plus chez ceux qui préfèrent encore l'amour en solitaire. Alors, fait intéressant, la moitié des gens ne s'aperçoivent que le lendemain qu'ils se sont blessés, sans doute trop emportés là, par l'élan de la passion. Ce qui montre, mais on s'en s'en doutait, que les lendemains de veille, parfois, on déchante. Parmi les blessures les plus graves, on notera que 2 % des amoureux se sont cassés un membre dans le feu de l'action.
Le lendemain d'un gros match.
C'est ça, c'est ça. Et parmi ceux-là, quelques gars rapportent même avoir vu leur attribut accidentellement cassé en deux par leur partenaire, un peu trop pressé de sauter, dans leurs bras, bien sûr.
Tout l'important du jockstrap.
Oui, oui. Alors, et 5% des blessés d'amour ont dû s'absenter du travail le lendemain. On note même des dommages matériels dans 40% des cas.
Ah, oui,
en moyenne, 250 $ de choses brisées, des vases, des miroirs, etc. Quand il y a eu des dégâts. Et certains amateurs de sport extrême, là, ils vont quand même rondement. On rapporte même des portes et des fenêtres défoncées.
Oui, en même temps, un couple de lutteurs, par exemple.
Ben oui, c'est ça.
Comme on n'est jamais trop prudent, donc j'ai fait la liste des lieux les plus dangereux à éviter.
Ben, on prend des notes
quand on fait l'amour. Oui, notez ça. Alors d'abord, le sofa. On a tendance à tomber en bas et parfois bien bas.
Ah, j'en ai pas, moi.
Les escaliers réputés instables, quoique remplis de possibilités, en haut, en bas. L'automobile, même en stationnement, vous savez que vous pouvez être blessé, en particulier quand une autre auto jalouse ou voulant peut-être partager vos efforts vous rentre dedans.
Ah,
alors la douche glissante. Par définition, la chambre à coucher, comme de quoi on n'est nulle part en sécurité.
Ben, c'est ça, oui. La chambre à coucher.
La patinoire, peut-être?
Oui. Non, les chaises, surtout quand on se retrouve plusieurs sur la même, pour bien dire. Alors, enfin, le placard, comme quoi le placard n'est pas, contrairement à ce que l'on croit, réservé aux gays. Hein.
Ah non?
C'est toujours trop étroit. Alors, des consolations, oui, et fort heureusement, parce que d'autres études montrent que les gens qui font l'amour deux fois par semaine et plus ont 45% moins de chances d'avoir des problèmes cardiaques et sont en général beaucoup moins stressé. Alors, que dire en conclusion? Ben, no pain, no gain, comme le disent les Anglais, justement. Et comme le répètent bien assez les bons entraîneurs sportifs, et de rappeler en terminant que malgré tout, le manque d'amour demeure toujours la plus douloureuse des blessures.
Monsieur Doré, je vous remercie beaucoup. Et puis, Paul, vous m'avez l'air stressé, donc on va se dépêcher de terminer cette émission-là. Merci.
Hey! Es-tu en tanné de pêcher avec du blé d'Inde? Achète-toi une barquette de vers de terre Piquette. Piquette élève des vers de terre, puis ces vers de terre sont bien élevés. Ils sont polis et s'ostinent même pas quand t'es pique. En tout temps, profitions du spécial deux vers de terre pour le prix d'un. Si t'es coupé en deux, ça t'en fait quatre. Les vers de terre Piquette, les seuls vers de terre hybrides, jujubes à grès de pêche. Comme ça, quand ça mord pas, tu pouvions bourrer la face de sucre. Ici Hermel et Gilles de Leblanc. Faites confiance au vers de terre Piquette, le meilleur de sa catégorie.
C'est pas des gars qui ont été au collège, là, des journalistes, ces gars-là. Là. Mais mettez-vous ça dans la tête.
Ariel, je te donne une mise en situation, OK? Ben, supposons que tu as un article de 300 mots à écrire puis qu'il t'en manque une couple de centaines puis qu'il te reste moins de 5 minutes avant de le remettre. Qu'est-ce que tu fais?
Oh, je sais pas. Tu vas sur les internets pour chercher plus d'informations.
Non, t'as pas le temps d'aller chercher du contenu. Le truc, c'est que t'enrobes, t'embellis, tu rajoutes des mots. OK, t'as pas l'air à comprendre, là, mais regarde, on va en faire un ensemble, veux-tu?
OK, ouais, c'est certain, hein? Écrire un article avec Real Manger, mon idole.
OK, c'est slack un peu, là, on dirait que c'est pas vrai tellement que t'en mets, là, OK?
OK, pas de problème.
Okay? Prends la phrase « Canadien a gagné 5-0 ».
Ouais.
Ben, en appliquant mes trucs, là, cette phrase de 4 mots-là peut se transformer en une phrase de 30 mots. Écoute bien, notre sainte flanelle adorée a remporté, comme on dit dans le langage français, une belle victoire gagnante de 5 buts à moins de buts qu'il ne faut pour compter jusqu'à 0. Hein? Pas pire, hein?
Aïe, merci, Réal. Crime de crime, c'est impressionnant.
Hey, un plaisir. Puis oublie jamais une chose, Montréal, le vide peut parfois avoir l'air bien rempli.
Burger Sport, la boulette la plus sportive en ville.
En 1952.
Celle-là est bonne.
Canadien.
Je sais pas trop comment ça s'est passé, là.
Alors voilà.
110 pour Jean, avec Jean Dion.
Rock on! Yeah. Le département des sports du devoir.
Oui, lui-même en personne.
Bonsoir.
C'est vous à quoi j'occupe mes journées ces temps-ci?
À jouer au Sudoku.
Non.
Non?
Je suis la commission...
Bastarache?
Non, Shane Doan,
hein?
Sur le processus de nomination des juges de ligne.
Bon, elle est très, très drôle.
Alors, la semaine dernière, nous avions commencé à avoir...
En régie, il n'y a personne qui compte.
Non, non, c'est ça.
Quel joueur avait été les meilleurs à porter tel numéro. Hein. Et je rappelais que dans le bon vieux temps, ben, ça allait de 1 à 30, les numéros. Hein. Les deux gardiens avaient 1. 30.
Vous l'avez fait la semaine passée, ce bout-là.
Oui, oui, c'est ouais, ça. Ouais. Mais, oui, mais je rappelle aux gens qui auraient peut-être oublié.
Ben ouais, ben ouais.
Et celui qui a vraiment brisé cette tendance-là, c'est Tony Esposito.
Il a pris quoi comme numéro?
35.
Oh. Hey, 5 de plus.
Saviez-vous qu'il avait déjà joué pour Canadien?
Ben oui.
Tony Esposito a commencé sa carrière avec Canadien. Et d'ailleurs, 35, c'est un numéro de gardien de but.
C'est vrai. Ouais. C'est le troisième gardien de but avant, je pense.
Tony Esposito, 35, Mike Richter,
il en connaît bien tout,
Tom Barrasso, Marty Turco, Jean-Sébastien Giguère, Andy Moog.
Oh.
Et vous allez me dire, évidemment, Mike McPhee.
J'allais le dire.
Mais il était défensif quand même.
Il part après. Il était défensif du type défense. Là,
si je vous dis, évidemment, dans les gros numéros, il y a moins de joueurs. Fait évidemment, le meilleur pour chacun est peut-être un peu moins... Bon, là, tu sais, là, 9, là, tu sais, Maurice Richard, Gaudière, tout ça.
C'est pas long, 4
minutes. Évidemment, il y a 70, vous allez me dire, il y a 77, Raymond Bourque, Paul Coffey, Pierre Turgeon, Adam Oates. Mais c'est pas le cas pour tous les numéros.
Ouais. Ben, vous venez nous
45,
dire.
Par exemple.
Gilbert Diane.
Je le savais que vous alliez me dire ça. Mais selon le site de NHL.com, c'est Aaron Hacham qui est le meilleur 45 de tous les temps.
C'est dit.
Il a joué avec Canadien, en passant.
C'est quelque chose. Si je vous dis 68.
Ah, ben c'est facile. C'est Jaguar.
Jaromir Jaguar. Vous savez pourquoi il portait le 68?
Oui, c'est pour la Révolution.
Le printemps de Prague. En Tchécoslovaquie. Si je vous dis Wilf Paiement, Rick Dudley et Joe Lamb, ils ont quelque chose en commun.
Ben, le numéro, imagine.
Oui, mais lequel?
98.
Non. Ils ont porté le 99.
Ah, oui, c'est vrai.
Avant Wayne Gretzky. Joe Lamb avec Canadien dans les années 30, d'ailleurs.
99.
Mais maintenant, il ne pourrait plus parce que non seulement le numéro a été retiré, mais pour ça fait un peu. C'est ça. Mais Brian Lawton, vous souvenez de Brian Lawton, qui avait été le premier choix total par les North Stars du Minnesota au début des années 80. Et il a été directeur général du
Lightning.
Lightning.
C'était un grand succès.
Il va envoyer Vincent Lecavalier à Canadien. Et lui, ayant été le premier choix, il avait fait comme un clin d'œil et il avait décidé de porter le numéro 98. Tu sais, allusion à.
C'est une bonne blague, ça.
Mais ça n'a pas marché trop, son affaire.
C'est non mécanique.
C'est à peu près ça.
Fait que,
et savez-vous, en terminant, savez-vous pourquoi Sidney Crosby porte le numéro 87?
Oui, il a 87 dents. J'étais convaincu que c'était ça.
Non, c'est parce qu'il est né le
87.
Il est né le 7 août 87. En anglais, ça fait 8.
Ça, c'est
ça nous régime pas.
Bonne chronique, ça.
Alors, c'était cette édition des chiffres pas de lettres.
Ben oui, vous pouvez même faire une petite conclusion. Il reste encore un petit peu de temps.
Dernier numéro.
Pourtant, je défonce tout le temps, tabarnouche.
C'est-à-dire que vous regardez jamais si tu le lock à chaque fois.
OK, bon, ben tiens, une petite colle.
On a plus le temps.
Le meilleur 73.
J'allais dire Ryder, mais évidemment, non. C'est...
Tout à fait.
Ryder! Oui, non, mais ça que vous me demandiez, c'était quoi le numéro de la Réplo? J'ai juste celui qui est Wallers. Fait que...
OK, là, on a vraiment défoncé. Okay. Je suis désolé. Mais je vous remercie, Jean.
Plo avec Canadien, je ne portais pas le numéro 8.
Je pense que c'était le 26.
Ben, on va s'entendre sur le 26-8. Oh, 14. OK, bye.
Salut.
OK.
Le brigadier des Internets.
Patrick, là, avait des défenseurs en avant de lui. T'as Larry Robinson qui est au temple de la renommée. T'as Chris Chelios qui est au temple de la renommée.
T'as peu, là. Chelios, il vient pas de prendre sa retraite il y a 2 semaines, genre. Appelez le brigadier, bouge pas.
Ouais.
Paul?
Si tu veux, là.
Chris Chelios, là, c'est-tu déjà au temple de la renommée, ça?
Minute, m'a googlé ça, là. Hey, t'as peu, toi, là. Tu me fais chercher pour rien, Chelios. Il est pas encore au temple. Il a annoncé sa retraite v'là 2 semaines.
C'est ça, je me disais.
Merci, brigadier.
J'ai réalisé, ça fait longtemps, que... ça fait drôle de dire ça, mais j'écris mieux que ce que je suis. Ce que j'écris, c'est réfléchi pendant des heures. J'ai consulté des gens. Et quand j'écris, c'est comment je dirais ça, dans les pulsions ou les... C'est filtré, finalement, hein?
S'il est une personne qui n'a besoin d'introduction que son nom, c'est bien notre prochain invité, Régent Tremblay. Monsieur Tremblay, un honneur de vous avoir au Sport Nagraphe.
Franchement,
bonsoir.
Je suis stressé bien.
Bon, ben allons-y.
Vous savez qu'on vous taquine au Sport Nagraphe, mais c'est la direction des sports qui nous oblige.
Exactement.
Parce que nous autres, on ne ferait jamais ça. Vous savez comment ils sont, Radio-Canada?
Pas comme ça.
Puis je sais pourquoi qu'il faut ce qu'ils vous demandent.
vous savez, vous êtes partout, Régent, on le sait. Hein. Mais nos enregistreurs...
Excusez-moi, on est deux comme ça.
Ah oui, c'est vrai? Qui donne?
Dieu.
Ah oui.
Oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus de lui. Dieu et Réjean.
Ça commence par chroniqueur.
Ben, nos enregistreurs numériques sont aussi partout. Fait que pendant l'entrevue, ça se peut qu'une envie nous poigne de passer des petits extraits comme ça. Mais en commençant, j'ai envie de vous demander, là, comment on se sent quand on est le seul journaliste qui n'est pas fan de Canadiens? Parce que vous comparez souvent la flanelle au Parti national-socialiste, mieux connu nazi. On va écouter, on va faire la commission Bastarache ici. Là, rendons-nous à l'annexe 3305, s'il vous plaît.
Des vrais professionnels qui contrôlent les médias peuvent vendre n'importe quoi. C'est exactement de cette façon-là que Hitler s'y est pris pour éradiquer les Juifs. Au moins, les nazis, eux autres, ils faisaient pas de cachotterie. Ça s'appelait le ministre de la propagande.
Bon, là, on le sait, là, l'organisation du Canadien
non,
est nazie.
Je veux dire que l'organisation... l'utilisation de la télévision et des médias que le Canadien fait, je dis, c'est connu ça, comme Barabas dans la passion, c'est le cas de le dire. Mais c'était employé. On ne sait pas ce qui se passe chez le Canadien. La preuve, c'est que l'année passée, on a appris, une fois la saison terminée, que c'est Gill puis Gomez, je pense, que ça s'était pogné plusieurs fois pendant l'année, un grave conflit. Mmh. On n'a jamais lu
dans
ça
dans l'antichambre.
Les journaux. On l'a jamais su.
Non, c'est vrai.
On ne sait pas comment les joueurs réagissent par rapport à Halak, par rapport à Price. Parce que tout est maintenant filtré, mais vraiment, là, c'est devenu... On force à peu près tout le monde à faire de la propagande. Et j'ai beaucoup d'admiration pour l'organisation.
Ah, c'est sous le régime nazi, c'est très... On parle beaucoup du retour des Nordiques, vous en parlez beaucoup d'ailleurs. Un article, c'est populaire, le Colisée de Quêteux, qui a fait beaucoup jaser, surtout à Québec. Vous savez d'ailleurs que les gens de Choix, vous savez, on écoute Choix aussi. Vous êtes contre le retour des Nordiques, vous savez ça? Et ils ont trouvé la raison. On écoute.
Moi, je pense qu'il a peur pour son national. Il a peur que si ça fonctionne à Québec, son équipe de hockey virtuel, ça va être du caca.
Est-ce que c'est vrai, ça? Vous avez peur que le national devienne du caca?
Ben, le national était là dans le temps des Nordiques. D'ailleurs, les gens, quand les Nordiques étaient tellement pourris, ça scandait, on veut l'embête.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui manque là, pour un retour des Nordiques?
Non, mais
là?
Ça m'inquiète. Ça, tu donnes un micro à ça, là.
Ouais. Nous autres, on aime ça. Ça nous donne du bon contenu.
Ben oui, enfin.
Mais Michel Langevin va jamais travailler là.
Peut-être que c'est un produit. D'ailleurs, justement, on parle de nouveaux journalistes, là, le journalisme sportif actuel. C'est quoi qui a changé avec le temps? Les Michel Langevin, il y en a plus?
Il faudrait dire les choses comme elles sont.
OK,
aussi.
Ça va être une déclaration.
Je veux dire, on appelle ça journaliste, mais en réalité, je veux dire, faut que tu enlèves sur la liste tous ceux qui sont payés directement par l'organisation. Danny Dubé et McGuire. Ce qui n'enlève rien de compétences hockey de Danny Dubé. Mais je veux dire, Canadien paye, c'est cassé, paye Dubé. Mm-hmm. Après ça, à la TV, en fait, c'est tous ceux qui sont admis dans le charter, dis-toi qu'ils sont inoffensifs.
Ouais.
En partant.
Faut-tu enlever aussi de la liste ceux qui sont payés par Burger King? Il y a beaucoup de publicité là, dans le monde du journalisme. Ouais, ouais. Ils ont toutes, est-ce que vous en faites de la publicité, vous, des fois?
Ben non, tu fous, toi.
Non.
Juste, on va t'écouter.
Ben, si j'en ai fait, c'était gratis.
Cet extrait, voilà, 6.
Il va en avoir un deuxième miracle.
Le quand et lequel?
Ben, hier, je suis allé, le lancement des produits IDC, c'est Antiré des fermetés, sérum intégral correctif. Demain, je pense te voir, va ressembler à Michel Giroir, ils me l'ont garanti.
Ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné.
Ça, c'était
gratis.
On n'aurait pas cru.
Mais j'avais fait à la polyvalente Charles Gravel aussi. On vendait des charlots, des espèces de pépinots en bois.
Okay. Fait que c'est IDC puis les pépinots en bois. Régent Tremblay, c'est le temps de la question des internautes.
Oui, d'abord, une première question de Rogatien. Serait-il possible, M. Tremblay, de faire un moratoire d'un an sur l'utilisation du mot « fafane » dans vos chroniques? Parce que ça devient un peu redondant à la longue. Là.
Mais c'est parce que c'est plus moi qui l'emploie. C'est les gens qui se qualifient eux-mêmes. J'ai pas parlé de « fafane », moi. De toute façon, il faut que le fafane comprenne qu'il y a pire que lui. Il y a le talifane.
Ah oui, c'est vrai,
c'est le fafane dangereux, violent. Puis il y a pire encore que le talifane, il y a le fafane battu. Lui, plus il se fait bafouer, plus il se fait mépriser, plus il se fait battre, mais il l'aime tellement.
C'est une typologie, cette affaire-là. Une autre question de Rogatien.
J'écris pour les fans.
Pas pour les fans. Une autre question de Rogatien, donc c'est un gars tenace. C'est-tu vrai, M. Tremblay, les rumeurs qu'il vous envoie au Journal de Montréal? T'sais, ça serait le fun parce que trouver vos chroniques dans la presse, c'est pas facile avec tout le cahier. Dans le Journal de Montréal, vu que je commence toujours par la fin, je tomberai vite dessus.
Ben alors, on va voir en temps et lieu. Ils vont régler le conflit, puis ils auront son verre.
Ah, ça, c'est intéressant.
Non, mais excusez-moi, là. C'est de la business, ça aussi. On verra tout le temps. Okay. C'est pas la première fois que le Journal de Montréal qui a des offres sur la table.
OK. Puis, d'autres, on n'a jamais reçu.
Un employeur a le droit de faire des offres. Mm-hmm. Puis un employé syndiqué membre de la CSN, comme je suis, un humble prolétaire, a le droit de regarder ça.
Absolument. D'autres, on a une offre de CKC sur la table.
On a tous compris. Jean Balcon, maintenant, la 7e saison de l'Anse Compte se termine par la scène suivante. On le sait, hein, Lulu qui se fait brûler par un partisan canadien.
Un talifan.
Ouais, c'est ça. Mais moi, je suis objectif. On s'entend, c'est une scène qui est censée être hautement dramatique, mais moi, Jean Balcon, je suis parti à rire très fort dans mon salon. Vous en pensez quoi?
Ben, écoute, une scène que tu as écrite pour une dramatique, il y a trois objectifs possibles. Elle peut être faire rire, elle peut faire pleurer, ou il faut qu'elle soit stressante, il faut qu'elle fasse progresser le drama. Dari, c'est parfait.
Bon, ben, écoute donc. Régent Tremblay, c'est maintenant le temps de la question cross-check d'en face. Monsieur Tremblay, est-ce que c'est parce que Georges Larac déteint sur vous que vous recyclez très souvent au 98,5 vos chroniques parues dans le journal La Presse le jour même?
Je pense que vous n'avez rien compris encore.
Non?
Je laisse pas le soin aux autres de faire mon propre spinning.
Ça, c'est bon. Pour moi, vous avez appris ça du livre des nazis. Là.
Ouais, c'est ça. Bon, exactement.
Jean Tremblay, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Ici les archives de Radio-Canada. En 1980, Mario Tremblay chantait dans ce message publicitaire de l'eau minérale Montclair.
L'eau minérale naturelle gazéifiée Montclair.
Il est bleu et bionique, on est fleur bleue mais dynamique, très romantique, très énergique. On voit la vie, grandeur nature, on est nature, nature, nature. On boit Montclair
parce qu'on est la génération nature.
Je retourne au sous-sol, je continue de fouiller et je vous reviens avec d'autres vieilles affaires.
Hey, le cours de Poutine.
Okay, enfin. Excellent, moi j'apprends.
Les enfants, ouais, silence, là.
Okay, oui,
bienvenue au cours de Poutine 101. Ce soir, nous allons voir ensemble une nouvelle sorte de poutine, la poutine du pouilleux.
Oh, yes!
Premier point important pour réussir une poutine du pouilleux, notez ça, le choix de la pitate.
Oh. De la pitate.
Écoutons le réputé docteur en poutine, Gabriel Grégoire.
Sucré, mou, on aime ça mou. Il y en a qui aiment les petites patates allumettes comme McDonald's fait. Puis on...
Hey Paul, quoi? Prends des notes. Là. Moi, je voulais faire la conclusion, OK? Mais des bonnes notes, là, OK? Parce que c'est déjà la fin du Sportnographe cette semaine. Suivez-nous sur twitter.com/sportnographe pour des liens directs vers des articles vides écrits par moi-même ou sur facebook.com/sportnographe pour un accès gratis à plus de 5654 amis. Nos collaborateurs à l'émission cette semaine, nos amis les internautes à l'inspiration, les trois accords au musette, réalisateur et co-animateur Jean-Philippe Horaire-Plot, concepteur et co-animateur Olivier Automobile, Niquette, scripteur chinois Guillaume Saint-Onge, Evelyne Cheveux Plate, Charu à la recherche, Philippe Dragon, Robert Jo, montage et à la technique, Stéphane Gourde, aux archives et nos stagiaires, Geneviève Trudeau-Sénécal et Charlotte Nadeau. Bon, j'ai-tu manqué de quoi, là? Ça va-tu être à l'examen?
Ça parle de sauce brune, là.
Oh, sauce brune!
Et dans sauce, oui, dans sauce.
Et vas-y donc, mon Gabriel.
Va à l'épicerie et allez chercher les produits Saint-Hubert.
Ah!
Puis là, mais fais un mix.
Moi, j'ai une question, là. Oui. Ça marche-tu que la sauce Jacques Martin, ça?
Ouais.
La quoi?
La sauce Jacques Martin?
Ouais.
C'est pas compliqué, hein? Il y a la sauce ketchup, il y a la sauce Jacques Martin.
Meilleur au coin, dehors!
Hey, qu'est-ce que j'ai fait, là?
Regarde, vas-y, t'en profiteras pour finir la conclusion, mais continue à prendre des notes, OK?
OK. Bon, en terminant, on remercie Donald Beauchamp, Alexandre Provencher, Michel Keble, Alexandre Courteau, Mathieu Roy, Jacques Clermont, sans oublier Jean-Philippe Mouillé-Vautier à l'animation. Sur ce, on reconnecte pas plus tard que dimanche à 23h. Pourquoi? Pour une belle rediffusion. Ciao!
Hey, Régent, merci pour l'entrevue. Hein. Puis juste avant de partir, là, on aimerait ça que tu participes à un de nos sketchs. Tu sais, penses-tu que tu pourrais nous lire cette pub-là? Tu vas voir, là, c'est pas... Hein? Non? Tu fais pas ça gratis, toi, hein, c'est ça? Bon, OK, mais mettons, là, gars, je te sors un petit 20$, hein? Non? Un autre petit 20$, là? Non? OK, parce que tu me donnes une minute, moi, je fais un troisième. Hein? Bon, on s'arrange demain?
Avoir Régent dans son studio, $500. Garder Régent dans son studio, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste, il y a l'argent des contribuables.